Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
Info, analyse et reportage, interview aussi, comme toujours, Jocelyne Moussaou-Pondé nous accompagnera pour ce tour de l'économie congolaise en ce qui concerne les infos.
Les grèves et arrêts de travail dans plusieurs offices et entreprises monopoliseront ces numéros d'écho d'économie. Nous serons à Kisangani pour ces 4 jours de non-activité à la Siforco, une société d'exploitation de bois. Pourquoi et comment se présente la suite? Anselme Massoy nous rejoint au téléphone dans 2 minutes.
Et grève dans les régies financières depuis hier, c'est le dossier de Daniel Tambizoni à suivre dans la seconde partie de cette émission. Et aussi, on va réfléchir sur cette question. Quelle relation établir entre les différentes grèves et la crise économique? L'invité de l'économie ce soir est Deo Kadia, responsable de DEC Synergie, spécialisé dans les analyses et conseils économiques. Commençons par le tour du pays. Les agents Gécamines prêts à enterrer Jean-Claude Massango.
Depuis hier, ils ont façonné un cercueil à l'entrée du bâtiment Sozacom à Kinshasa. Ils disent reprendre la grève. Les mangeurs de cuivre accusent le gouverneur de la Banque centrale du Congo de ne pas décaisser dans leur compte 50 millions de dollars comme leur part au pas de porte chinois.
Et Banro vend 12% de ses actions.
Cette entreprise qui explore l'or au sud Kivu et au Maniema veut récolter ainsi 90 millions de dollars. Ce montant servira à faire progresser ses projets aurifères à Twangiza, à 45 kilomètres au sud de Bukavu. Il aiderait aussi à quelques besoins généraux de l'entreprise, rapporte aujourd'hui l'agence Reuters.
6 milliards de dollars, c'est pour construire une nouvelle centrale hydroélectrique, en tout cas c'est un projet.
C'est le coût global estimé pour matérialiser le projet d'Inga 3. À ces sujets, un atelier de 2 jours organisé par le ministère de l'énergie s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa. Il réunit le partenaire extérieur et les experts congolais afin de réfléchir sur le voies et moyens du financement de ce projet. Les travaux de construction de ce barrage de capacité de 4300 MW devront durer 8 ans. L'option vise avant tout à résorber les déficits actuels en électricité dans le pays et à pourvoir à la demande extérieure déjà exprimée.
Et au Bas-Congo, toujours, on parle cette fois-ci de la baisse du prix de ciment gris.
À Matadi, plus précisément, le sac de 50 kilos est passé depuis le week-end dernier de 8 500 à 8 000 francs congolais, toutes qualités confondues. Certains acheteurs saluent cette baisse de prix. D'autres, par contre, affirment constater des anomalies au niveau du poids de ces ciments. Ils affirment que ces sacs n'atteignent pas 50 kilos. Les services économiques de la mairie de Matadi informés promettent de se pencher sur la question pour vérifier et prendre des mesures.
Des douaniers à Kindu, plutôt qu'à Goma, ça serait bénéfique.
Cela serait bien sûr un avantage pour la caisse publique de la province du Maniema et c'est la raison qui a réuni hier à Kindu le chef local de l'office des douanes et accises et les opérateurs économiques de cette ville. Pour ces opérateurs, c'est moins coûteux de le faire sur place à Kindu, mais il faut convaincre les transporteurs ougandais à aller au-delà de Goma.
La nouvelle économique au bout du fil.
Au bout du fil, depuis Kisangani, Anselme Massoy. Anselme, la Siforco, société industrielle et forestière du Congo, ne travaille pas depuis 4 jours. En tout cas, elle a fait 4 jours sans travailler. Elle est, pour être clair, empêchée de travailler. C'est le soulèvement de la population de la localité de Bunduki, dans le territoire d'Aketi. C'est au moins 500 kilomètres au nord de Kisangani, qui paralyse les activités de cette entreprise de bois, paraît-il.
Effectivement, Georges Kamoudjova, c'est exact. Les habitants de la collectivité Bunduki ont barricadé la route Ekofo-Bunduki, empêchant ainsi les engins de la Siforco de se rendre dans la forêt pour évacuer ces grumes de bois. Selon l'administrateur du territoire d'Aketi, les ayants droit accusent la Siforco de continuer à exploiter leur forêt sans pour autant honorer ses engagements consignés dans le cahier de charges.
Et que dit ce cahier de charges?
Selon l'honorable Gilbert Mokoto, député provincial ressortissant d'Aketi, la Siforco exploite la forêt de sa circonscription depuis 2004 et le cahier des charges est signé depuis 2006, à savoir la construction de 9 écoles, 3 centres de santé et la réhabilitation d'une 30aine de kilomètres de route, bien sûr, n'évolue pas. Seulement 1 école sur l'ensemble de ces ouvrages est réalisée, affirme la même source.
Et que dit la Siforco sur ces propos de l'honorable Mokoto?
Pour la Siforco, c'est la population de Bundouki qui est à la base de la lenteur de l'exécution de ce projet. Cette population, dit-elle, n'arrive pas à fabriquer des briques cuites qui seront achetées par l'entreprise pour la réalisation du protocole. Toujours selon la Siforco, tout est prêt de son côté pour honorer son engagement à la seule condition que la localité lui présente sa participation telle que convenue.
Bon, difficile donc de faire la paix entre l'entreprise et les populations.
L'administrateur du territoire déclare avoir ramené les deux parties à la raison et qu'une réunion est prévue à la fin de cette semaine pour retoucher ses cahiers de charges. Sur terrain, il nous apprend que la barrière a été démantelée depuis hier et que Siforco a déjà repris le travail.
Tant mieux. Merci Anselme Massoua pour toutes ces précisions depuis Kisangani. Vous écoutez Radio Okapi sur 94.8 FM.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Jocelyne Moussa Oupondé.
Commençons par la Zambie voisine, des mines de cuivre frappées par une panne d'électricité.
Production à l'arrêt il y a deux jours. Le premier producteur de cuivre en Afrique a été plongé dans l'obscurité le lundi soir après qu'un transformateur sur le réseau électrique national a été détruit par le feu. La Société nationale d'électricité ZESCO devrait commencer à importer immédiatement le courant de la RDC, ont déclaré les autorités zambiennes à l'agence Reuters. En période de crise, la Zambie importe aussi l'électricité de la Namibie et d'Afrique du Sud.
Namibie, on y est. Forest chercherait à quitter ce pays.
Chercherait, c'est bien au conditionnel. Selon le site Africa Intelligence, très spécialisé dans les informations économiques, le patron du groupe congolais a entamé des négociations avec diverses parties en vue de la cession de Forsys Metal Corp. Mais Radio Capi a joint ce matin le porte-parole de Forest, Henri de Harenne, qui réfute cette nouvelle. Pour rappel, le groupe Forest International avait signé des accords l'année dernière pour investir dans les mines et le ciment en Namibie.
L'Algérie enregistre 16 milliards de dollars américains de recettes d'hydrocarbures de janvier à mai.
Ce qui donne une moyenne par mois de plus de 3 milliards de dollars, a déclaré le PDG du groupe pétrolier et gazier public à l'agence algérienne APS. Les recettes pétrolières qui représentent la quasi-majorité des exportations algériennes pourrait dépasser les 40 milliards de dollars cette année, selon le ministère algérien de l'énergie et des mines.
Et 45 000 cartes de crédit bloquées en Belgique.
C'est à titre préventif que les banques belges ont bloqué ces cartes à la suite des fraudes. Les systèmes de gestion de paiement électronique ont détecté des fraudes de plus d'un million d'euros et ont agi en concertation avec les banques. Environ 3 millions de cartes de crédit sont en circulation en Belgique, utilisé pour un montant de plus de 7 milliards d'euros par an.
C'est à la fin de ces infos économiques dans le monde. Merci beaucoup Jocelyne Moussaou Pondé, Écho d'économie sur Radio Capi, tout de suite dans sa seconde partie.
Écho d'économie, le dossier.
Alors, le dossier, c'est ce qui amène Daniel Tambizoni dans ses studios. Toujours pas de reprise de travail dans les régies financières. Les syndicalistes attendent des garanties fermes avant de demander aux travailleurs de reprendre le travail. Daniel, vous avez suivi ce mouvement de mécontentement. S'agit-il des arriérés de salaire ou des primes de performance?
En clair, Georges, il s'agit de deux. D'abord, la réclamation porte sur le salaire du mois de mai, qui n'est toujours pas payé jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, les grévistes réclament les primes du troisième trimestre de l'année 2008, ajoutées à cela les primes de mois de février, mars, avril 2009.
Bon, ça fait trois, hein?
Oui, ça fait beaucoup même. Selon le vice-président de l'intersyndicale de l'OFIDA, DGI et DGRAD, que nous avons interrogé ce matin, les discussions entre le syndicat et le ministère des Finances ont commencé depuis le mois de janvier de cette année. Il était question que le gouvernement puisse apurer les arriérés de bonus troisième et quatrième trimestre 2008. À ce sujet, je vais me faire compléter par M. Fidel Kiyangi, vice-président de l'intersyndicale des régies financières.
On l'écoute.
Nous avions signé un protocole d'accord avec les cabinets pour qui disait que les bonus ce quatrième trimestre 2008 devraient être payés au courant du mois de mai et que au mois d'avril, on devrait payer le mois de janvier et le mois de février. Mmh. Arrivé au mois d'avril, on n'a pas payé le mois de février, on a seulement payé le mois de janvier. Et le bonus au mois de mai n'a pas été payé, nous avons saisi les cabinets du ministre des Finances.
Voilà, fidèle qu'on écoutait. Et qu'est-ce qui a retardé l'apurement du reste qui conduit aujourd'hui à ce mouvement?
C'est tout simplement le non-respect du protocole signé entre le ministère des Finances et la délégation syndicale. Georges nous a confié, M. Fidèle. Pendant que le syndicat attendait la réponse du ministre suite à la lettre de rappel qu'il lui avait adressée, ouais, la lettre du cabinet du chef de l'État est tombée, interdisant l'ordonnancement de dépenses publiques au premier ministre.
Alors, c'est ce qui a tout perturbé.
Tout est retardé.
Ah, voilà. 2 jours d'inactivité dans les régies financières, c'est beaucoup de pertes pour le pays, à mon avis, hein.
C'est ça, Georges. C'est beaucoup d'argent perdu et pour le ministre du budget que notre collègue Innocent Olenga a joint ce matin. Le retard n'est pas seulement observé à l'OFIDA DGI de Gérard. On peut l'écouter.
Toutes les opérations de liquidation ont été faites depuis le 16 juin pour qu'on puisse mettre à la disposition de ces régies financières de tous ce droit afin qu'ils puissent reprendre le travail. Il n'y a pas que les régies financières qui connaissent ce retard, même le gouvernement lui-même aussi. Je vais vous dire que moi je suis ministre, mais je n'ai pas encore touché mon salaire du mois d'avril. Il faut comprendre que nous avons les deux pieds aujourd'hui dans la récession économique.
Michel Lokola, que vous écouterez comme invité du jour demain matin, je crois, avec Innocent Olenga. Michel Lokola, donc, qui estime que la situation est dure. Combien faut-il pour payer ces agents? On peut terminer par la dernière.
Oui, Georges, Monsieur Fidèle nous a dit que l'enveloppe s'élèverait aujourd'hui à au moins 19 milliards de francs congolais, contrairement à 10 milliards qui étaient décaissés avant. Le ministre des Finances attend avoir l'autorisation de décaissement de son chef, mais en attendant, c'est la grève qui continue.
Merci beaucoup à Daniel pour ce dossier et on vous retrouve très prochainement.
Merci bien, Jean.
L'entretien de ce soir.
L'invité de l'économie ce soir est Deo Kadia. Deo Kadia, vous êtes analyste économique et président de DEC Synergie, spécialisé dans les conseils et analyses économiques. En tout cas, vous avez aussi une expérience de 10 ans dans les secteurs bancaires aux États-Unis. Vous avez vu naître la crise économique. Aujourd'hui, en RDC, plusieurs grèves, si pas des grèves, en tout cas des syndicalistes ou des populations qui se fâchent contre une entreprise quelconque. Donc, vous pouvez d'abord nous dire quelle relation on peut établir entre ces différentes grèves et la crise économique mondiale.
Je vous remercie, cher monsieur le journaliste. Nous avons un pays dont l'économie dépend essentiellement de nos exportations, de nos importations, et aussi elle est tributaire en fait du cours du pétrole dont nous sommes producteurs. Et quand il y a un choc exogène comme celui que nous vivons,
la crise économique,
nous sommes incapables de le maîtriser et ça se répercute immédiatement sur les recettes douanières par exemple, et ça se répercute sur les impôts que nous payons tous les jours, étant donné que les revenus, quand ils baissent, il y a un impact immédiat sur les revenus fiscaux. En outre, au plan budgétaire, strictement budgétaire, par rapport à l'État est limité dans ses moyens d'action puisqu'il n'arrive pas à recevoir ce qu'il attendait par rapport aux prévisions budgétaires qu'il avait établies au départ.
Et faut-il dire alors que les grèves qu'on connaît actuellement pourront continuer encore?
Je pense qu'il y a un effort qui a été initié au niveau du G20, les pays développés, qui essayent, en tout cas à travers des institutions multilatérales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui essayent, en tout cas, de mettre à la disposition des pays qui sont en difficulté comme les nôtres, de bouffées d'oxygène qui pourraient aider donc à pouvoir ralentir les effets de cette crise. Je crois que au niveau des États-Unis, on a amorcé la reprise économique. Je crois que nous pouvons espérer que, de notre côté, au niveau de notre pays, il y aurait une amélioration sensible dans les mois, si pas dans les semaines qui viennent.
Alors,
mais le tout, à mon avis, ouais, c'est de pouvoir anticiper ce genre de situation et de pouvoir accepter de serrer la ceinture quand les choses ne marchent pas telles qu'on le souhaite.
Alors, c'est ça même la question, comment prévenir ces genres de situations?
Je crois que quand on parle, par exemple, de la crise qui a été initiée aux États-Unis, c'était tout à fait prévisible au niveau des analystes, mais quand on atteint un point d'exubérance tel que ça génère beaucoup de richesses, parfois nous oublions les bases même de l'économie qui disent que quand vous ne créez pas de richesses, ça ne sert à rien de dire que vous êtes riche.
Et donc, vous voulez dire que la RDC n'a pas d'autre solution que de patienter et attendre la fin de la crise?
Non, je dis que quand c'est une crise qui frappe tout le monde, nous pouvons à notre niveau mitiger en tout cas les effets de cette crise, mais la RDC à son niveau devrait aussi profiter des initiatives qui ont été prises par des institutions comme la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui mettent à la disposition des pays en difficulté des fonds qui soutiennent la balance des paiements pour pouvoir passer ce cap difficile. Mais c'est un contexte tout à fait mondial. La RDC à elle toute seule ne peut pas trouver de solution.
Alors, on a vu une bouffée d'oxygène du FMI, 200 millions de dollars, l'ABAD, 100 millions de dollars, les pas de porte chinois, au moins 175 millions de dollars déjà versés, et apparemment ça ne suffit pas.
Ah non, je crois qu'à terme, ça va donner des résultats, puisque ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que des crises qui sont générées avec des effets comme celui que nous connaissons actuellement ne sont pas réglées immédiatement. Il faut donner le temps pour que, petit à petit, on sorte de cette situation-là. Bien souvent, nous réfléchissons à très court terme, mais je crois qu'il faut avoir une vision à moyen et long terme pour pouvoir voir le bénéfice que nous tirons de la situation.
Merci beaucoup, Deo Kadia. Je rappelle que vous êtes président de DEC Synergie, spécialisée dans les analyses et conseils économiques. C'est avec vous donc que nous terminons cette émission Écho d'économie. Merci d'y avoir participé. Réalisation Daniel Tambinzoni, Jocelyne Moussaou et Kaziragi sous la supervision de Nicole Ngaka. Bonne soirée à tous et à demain.
Je vous remercie.